Europe 1. Il est midi et demi. Midi, le journal jusqu'à 13h15, c'est avec vous Maxime Switek, bonjour Maxime.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Europe Midi avec à la une aujourd'hui un coup d'arrêt, les Françaises font de moins en moins de bébés, les derniers chiffres de l'INSEE sont tombés ce matin. L'INSEE qui s'est par ailleurs intéressé au PACS, au mariage, à l'union libre, vous verrez que les chiffres varient beaucoup d'une région à l'autre. Emmanuel Macron à Calais, le président a visité ce matin un centre d'accueil pour réfugiés, discours à venir face aux forces de l'ordre, plusieurs associations boycottent le rendez-vous. Dans ce journal, l'incroyable histoire d'Arthur Kermalvezen, ce jeune Français né d'un don de sperme, affirme avoir retrouvé son géniteur grâce à un simple test ADN acheté sur Internet. On en parle dans ce journal et tout à l'heure dans le débat d'Europe Midi. Une nouvelle agression de surveillants en prison, cela s'est passé à Mont-de-Marsan, nez et doigts cassés, 7 gardiens ont été blessés. Également au sommaire, cette découverte terrible aux États-Unis, 13 enfants maltraités, affamés et enchaînés par leurs parents. Et puis, les manuels scolaires épluchés, avec une question en tête, comment y parle-t-on des femmes? Sont-elles aussi visibles que les hommes? La réponse est très nette, non. La météo, bonjour Christine Peignard.
Bonjour Maxime Switek.
La Corse en vigilance orange.
Oui, effectivement, jusqu'à demain après-midi, le vent va souffler de plus en plus fort sur l'île. Ce soir, les rafales pourraient atteindre les 150 km/h, voire 190 sur le Cap Corse. Côté ciel, moitié nord ne s'en sort pas si mal aujourd'hui, avec des éclaircies. La moitié sud reste sous la pluie, le vent et la neige sur les massifs. Le pourtour méditerranéen reste un peu à l'écart avec quelques nuages. Les températures, 7 à Lille, à Metz, 10 à Paris, 11 à Lyon, 13 à Bordeaux, 15 à Marseille. On parle de demain tout à l'heure?
Absolument, météo complète juste avant 13h. Europe Midi, c'est parti.
Europe Midi. Maxime Switek sur Europe 1.
Une photo pour ouvrir ce journal. Photo grand angle puisqu'on y voit toute la population française. L'INSEE a publié ce matin ses chiffres arrêtés au 1er janvier. Et la France compte donc aujourd'hui 67,2 millions d'habitants. C'est un chiffre qui continue d'augmenter. On va voir ça avec vous Théo Manval. Ça augmente mais moins vite qu'avant pour une raison simple Théo. C'est que les femmes font nettement moins d'enfants qu'il y a quelques années.
Absolument. La différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès est au plus bas depuis l'après-guerre, nous dit l'INSEE, notamment parce que le taux de fécondité est tombé à 1,88 enfants par femme. C'était encore 2 enfants par femme il y a 3 ans. Alors il y a plusieurs explications possibles à ça, indique Marie Reynaud, elle est chef de l'unité des études démographiques.
D'un côté, ça pourrait être l'instauration d'une nouvelle tendance qui donc se poursuivrait dans le futur. Ou d'un autre côté, ça pourrait être l'impact de la crise. On décale des naissances parce qu'on est au chômage, on attend des jours meilleurs pour avoir un enfant. Si cette explication est la bonne, on devrait observer une réaugmentation de la fécondité une fois la crise passée.
Alors au-delà de ça, il y a quand même de bonnes nouvelles, hein, Maxime. L'espérance de vie augmente à nouveau chez les hommes, 79 ans et demi. Et elle reste stable chez les femmes, 85 ans et 4 mois.
Théo, pour la première fois, l'INSEE a par ailleurs étudié la manière dont nous nous unissons en France, les mariages, les PACS, les unions libres.
Et c'est très intéressant Maxime, le nombre de PACS continue d'augmenter. Il y a aujourd'hui 4 PACS célébrés pour 5 mariages, donc presque autant. Et ça varie très fortement selon les départements. On se PACS plus dans l'ouest de la France qu'à l'est, explique Isabelle Robert-Bobet. C'est elle qui a coordonné l'étude.
C'est très fortement lié au fait que la population est jeune et fortement diplômée. On va avoir notamment plus de PACS, par exemple en Ille-et-Vilaine, dans les villes estudiantines comme Rennes, Clermont-Ferrand ou Nantes.
Et à l'inverse, plus de couples qui choisissent le mariage dans des départements moins jeunes comme la Loire, la Moselle ou le Haut-Rhin.
À Théo Manval en direct pour Europe Midi. Merci Théo. L'autre grand titre à la une de l'actualité en ce mardi 16 janvier, c'est cette visite d'Emmanuel Macron à Calais. Le chef de l'État doit y prononcer un discours dans les minutes qui viennent. Discours évidemment consacré aux questions migratoires en général, à la loi sur l'immigration qui est attendue, mais aussi bien sûr à la situation locale dans la région de Calais. La jungle a été démantelée il y a un peu plus d'un an, mais autour de 500 migrants continuent de vivre dans les environs. Le président de la République a d'ailleurs visité ce matin un centre d'accueil où sont justement accueillis les réfugiés qui attendent de savoir s'ils pourront passer en Angleterre. Kevin Thuillier, vous êtes sur place pour Europe 1. Kevin, Croisy, c'est là que se trouve ce centre. C'est un peu le centre modèle que le chef de l'État a voulu mettre en avant.
Oui, une visite de près de 2 heures de ce centre où résident 63 migrants. Depuis plus d'un an, les habitants de ce petit village de 2000 habitants ont appris à cohabiter avec les migrants. De nombreux riverains s'impliquent même au quotidien. Ils sont pour la plupart ravis.
Il y a eu un peu d'appréhension pour une partie de la population. Ça a été un petit peu médiatisé, peut-être un peu trop aussi. Mais finalement, en fait, ça s'est très bien passé. Et j'étais admiratif devant les Soudanais, dont un qui ne parlait pas un seul mot de français et qui maintenant, en fait, à l'heure actuelle, est en train de passer son code.
Des migrants dans l'attente du traitement de leur dossier, opération de communication pour le président de la République qui leur a transmis son message habituel d'humanité tout en maintenant que la France ne peut accueillir tout le monde.
C'est vrai que le défi, c'est de permettre que personne ne soit laissé dans la rue. Et donc il faudrait qu'on puisse avoir en même temps qu'il y ait suivi administratif sur tout ce qui est fait par ailleurs et qui permet à l'intégration, c'est-à-dire les cours bénévoles, etc., un suivi pour qu'il y ait une espèce de passage de témoin.
Emmanuel Macron qui s'est envolé à Calais où il va rencontrer les forces de l'ordre. Une séquence plus tendue l'attend cet après-midi avec les associations pro-migrants.
Kevin Thuillier, je vous le disais, le président Macron doit prononcer effectivement un discours très attendu sur place dans un instant à Calais. Mais deux des principales associations d'aide aux migrants ont décidé de boycotter ce rendez-vous. C'est le cas de l'Auberge des migrants. Écoutez Maya Conforti, elle en fait partie.
On n'y va même pas. L'auberge a décliné l'invitation pour montrer notre désaccord profond avec le projet de loi. En tant qu'association, on veut montrer, on n'est pas d'accord avec votre politique, vous voulez pas nous entendre, nous c'est pas la peine qu'on vous entende et que vous faites semblant de nous avoir écoutés. Sa politique d'immigration, elle est encore pire que celle de Hollande. Le doublement de la durée de rétention, le renvoi systématique des Dublinés. Donc la politique de Macron est bien, bien, bien plus sévère que n'était celle de Hollande. Et même celle de Sarkozy d'ailleurs.
Voilà, témoignage recueilli par Kevin Thuillier à Calais. Deux informations en bref en politique dans ce journal pour vous dire d'abord que le patron des sénateurs socialistes a décidé de quitter la vie politique. Didier Guillaume l'annonce dans un communiqué transmis à l'AFP. Décision mûrement réfléchi, dit-il, mais sans donner plus d'explications. Et puis la ministre de la Culture met une très grosse pression sur le patron de Radio France. Hier, Mathieu Gallet a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme dans une affaire qui remonte à l'époque où il dirigeait l'INA. Eh bien, la ministre Françoise Nyssen lui demande d'en tirer les conséquences. Pour elle, la situation n'est pas acceptable. C'est ce qu'elle dit dans une interview au Monde. Mathieu Gallet a dit hier, lui, qu'il était hors de question de partir et qu'il faisait appel de cette décision de justice.
Europe 1. Il est 12h38, Europe Midi, la suite du journal. Maxime Switek.
Il s'appelle Arthur Kermalvezen. Il est français, il a 34 ans et vous avez peut-être entendu son témoignage ce matin sur Europe 1. Arthur Kermalvezen est né après un don de sperme. Il ne connaissait pas l'identité de son géniteur. L'anonymat du donneur, c'est la règle en France, mais il dit avoir réussi à percer ce secret et à retrouver son donneur. Et d'après ce qu'il explique à Roger, ça semble même avoir été assez rapide.
Et oui, 12 heures pour retrouver son donneur. À partir du moment où il reçoit le résultat du test génétique acheté $99 sur un site américain. Ce test lui indique qu'il matche avec un certain Larry, un franco-anglais d'une quarantaine d'années qui habite Londres, qui serait son petit-petit cousin. Il le contacte via le réseau social LinkedIn. Ensemble, ils étudient la branche française de l'arbre généalogique de Larry et ils identifient assez facilement le seul homme en âge de donner son sperme en France dans les années 70. C'est le petit frère du grand-père de Larry. Vous me suivez ?
Oui.
Alors, Arthur a donc son nom, son adresse. C'est à 1h30 de chez lui, à côté de Paris. Il y va, il confie une lettre au voisin de son donneur, lettre qui est remise à l'intéressé le 23 décembre dernier. Et le 25 décembre, jour de Noël, coup de fil raconté par Arthur ce matin sur l'antenne d'Europe 1.
Voilà, j'ai quelqu'un qui me dit « Bonjour Arthur, qui est-ce qui peut t'appeler un 25 décembre à 10h ?» Je lui dis « Il y a bien une personne, je lui donne son prénom. » Et il me dit « Oui, c'est bien moi. » En fait, moi, j'ai eu la sensation de passer de l'autre côté du miroir. Ensuite, on m'a tellement dit que les donneurs voulaient pas nous rencontrer. Je suis la preuve vivante que les donneurs sont ravis. Enfin, en tout cas, le mien était ravi. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question, est-ce que oui ou non, ça vous dérange le fait que je me sois autorisé à vous contacter? Et sa réponse est non, je suis absolument ravi.
Et voilà, la rencontre en chair et en os est prévue en février. Mmh. En attendant, Arthur Kermalvezen espère bien, avec ce conte de Noël, relancer le débat sur l'anonymat du don de sperme. Sujet qui n'est pas à l'ordre du jour des états généraux de la bioéthique qui commence jeudi. En tout cas, pas pour l'instant.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Alors justement, ce débat, faut-il lever l'anonymat pour les dons de sperme? C'est la question que tout à l'heure nous poserons dans le débat d'Europe Midi, débat à 13h05.
Et vous pouvez participer, comme chaque jour, au débat d'Europe Midi. Vos messages, vos réactions, vos questions, c'est dès maintenant sur Twitter avec le hashtag E1Midi et sur Europe1.fr.
Notre-Dame-des-Landes, on se rapproche de la décision. Le gouvernement doit dire avant la fin du mois de janvier s'il maintient ou annule le nouveau projet d'aéroport nantais. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a expliqué sur France 2 que quoi qu'il arrive, les éléments les plus radicaux seraient évacués de la ZAD. Les éléments les plus radicaux, écoutez ce que lui répond Camille. Il fait partie de ceux qui vivent aujourd'hui justement sur cette ZAD.
Je ne sais pas qui sont les éléments les plus radicaux. Il y a une fable qui court depuis des semaines, comme quoi il y aurait ici une bande de 50 ultra-violents et puis des paysans néo-ruraux légitimes à rester. En fait, ça n'existe pas. Il y a un ensemble de personnes qui ont choisi de lutter et vivre ensemble ici, de continuer à protéger ce territoire. Après, ces fables, elles ont pour fonction d'essayer d'isoler, de diviser, de justifier éventuellement des opérations répressives. On espère que le gouvernement, demain, si le projet d'aéroport est abandonné, ne s'enfermera pas dans ces logiques répressives. En 2012, on était tous ensemble sur les routes, dans les cabanes, dans les arbres, derrière les barricades, à défendre la zone de différentes manières. On espère qu'on n'aura pas à le refaire. Ce sera absurde, demain, qu'après avoir abandonné le projet d'aéroport, que le gouvernement se venge sur les personnes qui auront su en prendre soin. Ce serait absurde qu'ils s'enferment dans ce type de logique répressive.
Vous ferez quoi s'il y a intervention pour évacuer certains d'entre vous ?
Si le gouvernement s'entête dans une logique répressive, on fera ce qu'on peut pour l'en empêcher.
Voilà, réaction recueillie à Notre-Dame-des-Landes par François Coulon.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h41 et Europe Midi se poursuit dans un instant avec vous, Maxime Switek.
Et avec une nouvelle agression à la prison de Mont-de-Marsan, 7 gardiens blessés, à tout de suite.
Europe Midi. Il est 12h44, la suite d'Europe Midi, Maxime Switek, avec donc cette nouvelle agression dans une prison française.
Ça s'est passé au centre pénitentiaire Pémélian, c'est à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Des surveillants ont dû s'y mettre à neuf pour maîtriser un détenu qui refusait une fouille, un détenu réputé violent et qui se serait radicalisé en prison. Sept d'entre eux ont été blessés, nez et doigts fracturés pour certains. Écoutez Fabio Coloni, représentant FO pénitentiaire.
Un groupe d'individus donc partait logiquement sur l'activité sport. Le détenu en question a dû passer, comme tous les autres, sous le portique métallique. Il a sonné. Il a dû être procédé à une fouille, contestation, et la première surveillante a été un petit peu bousculée. Elle a reçu son sac de sport au visage. L'adjoint du bâtiment est arrivé avec la capitaine, et donc lui, il a pris un coup au nez. Qui a eu une fracture avec un déplacement de la cloison nasale. La capitaine, elle a pris des coups au plexus. Il y a une surveillante qui a été projetée assez violemment contre le mur. C'est un détenu quand même qui est bien entretenu physiquement et qui est jeune. Un autre agent a eu le doigt cassé et le premier surveillant, le tibia amoché. 7 blessés, donc 4 sont allés à l'hôpital. Voilà. Bien heureusement, ils sont ressortis. Il a été condamné pour une longue peine et il est signalé comme étant radicalisé. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas parler aussi demain de prison dédiée pour les radicaliser ? Est-ce qu'il ne faut pas les confiner pour mieux les observer, pour mieux les contrôler.
Un témoignage au micro Europe 1 de Stéphane Place à Mont-de-Marsan. Cette nouvelle agression, elle intervient alors que la situation est déjà très tendue dans les prisons. On le sait, les surveillants multiplient les grèves, notamment à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. C'est là que 3 surveillants ont été déjà agressés la semaine dernière. Et c'est là que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est arrivée ce matin. Visite perturbée dès son arrivée d'ailleurs, Lionel Gougelot.
Oui, effectivement, arrivé avec une petite heure de retard sur l'horaire prévu, la ministre a eu le droit à un accueil, on va dire, un peu chahuté quand même, hein, de la part des surveillants. Elle a dû contourner le feu de pneumatiques et de palettes barrant l'entrée du centre pénitentiaire. Quelques mots dans la bousculade et sur fond d'une Marseillaise entonnée par les gardiens pour indiquer qu'elle était là en soutien donc à ses agents agressés la semaine dernière. Et puis, Nicole Belloubet s'est faufilée jusqu'à la grille d'entrée pour cette visite hors micro et caméra. Les syndicats attendaient, vous l'imaginez, des engagement fort de la part de leur ministre du tutelle, notamment sur les effectifs et les conditions de sécurité au sein de l'établissement. Et bien visiblement, après une heure et demie de rencontre, un peu plus, même ils n'ont pas obtenu satisfaction et ils ont demandé à leurs collègues de bloquer la sortie de la ministre.
On doit bloquer la ministre. Elle sortira pas d'ici. Elle sortira pas d'ici. Là, on est pris vraiment pour des cons. C'est un ras-le-bol total, ça fait des années que ça dure, aucun gouvernement nous a écoutés jusqu'à présent. Donc là aujourd'hui, elle est chez nous, et ben elle va rester chez nous un peu plus longtemps que prévu.
Alors à l'heure où je vous parle, Nicole Belloubet est toujours à l'intérieur du centre pénitentiaire en discussion avec les représentants du personnel. Les forces de police sont stationnées près des portes de la prison pour dégager, si besoin, la sortie de la ministre qui doit théoriquement rejoindre Emmanuel Macron en voyage à Calais à une centaine de kilomètres d'ici.
Ah, vous avez bien dit théoriquement. Merci Lionel Gougelot en direct de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais pour Europe 1. Les chiffres du déficit pour l'année 2017, ils sont tombés ce matin. Ils sont moins mauvais que prévu. Déficit en baisse d'1,3 milliard. Par rapport à 2016. Ce déficit est aujourd'hui de près de 68 milliards.
Europe 1.
Il est 12h47, Europe Midi, la suite du journal. Maxime Switek.
L'horreur à Perris, en Californie. C'est là que se trouve la maison de Louise et David Turpin, couple âgé de 49 et 57 ans. La police américaine y a découvert 13 frères et sœurs enfermés, pour certains enchaînés et affamés par leurs propres parents. Cette histoire a évidemment saisi d'effroi toute l'Amérique hier. Marguerite Lefebvre, c'est l'une des sœurs qui a réussi à alerter la police.
Oui, le week-end dernier, l'adolescente de 17 ans parvient à s'échapper, à mettre la main sur un téléphone portable et compose aussitôt le 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. La police, prévenue de cette épouvantable captivité, arrive sur place et dans la maison. Les forces de l'ordre découvrent dans une odeur nauséabonde les 13 enfants du couple. Certains, vous le disiez, sont même attachés à leur lit avec de lourdes chaînes et des cadenas. 13 personnes si frêles et affamées que la police les prend tous pour des enfants. En réalité, 7 d'entre eux sont des adultes âgés de 18 à 29 ans. Le couple, qui n'a donné aucune explication, est arrêté sur le champ. Louise et David Turpin vivaient ici depuis 2010. Sur Facebook, ils ont publié plusieurs photos ces dernières années où on les voit entourés de leurs enfants, tout sourire, lors de leur mariage ou lors d'une sortie à Disneyland. Depuis quand les enfants étaient-ils séquestrés? Une enquête a été ouverte. Les parents sont aujourd'hui en prison, incarcérés pour torture et mise en danger d'autrui. Leur caution s'élève à 9 millions de dollars chacun.
Marguerite Lefebvre, merci. Dans l'actualité également, cette étude sur les manuels scolaires, les manuels d'enseignement moral et civique. C'est une matière obligatoire à l'école et au collège depuis 2016. Le centre Hubertine Auclair, qui milite pour l'égalité homme-femme, a épluché tous ses livres pour voir si on y parlait des femmes comme des hommes et si on en parlait autant. Réponse avec Virginie Salmen.
Il y a toujours un déséquilibre flagrant dans ces manuels scolaires de collège et de lycée. Parmi les personnages mis en valeur, historiques ou actuels, on compte environ 80% d'hommes pour seulement 20% de femmes. Et la proportion tombe à 15% quand on parle politique. Et il n'y a pas que le nombre qui pose problème, souligne Amandine Berton-Schmidt, l'auteur de l'étude.
Chez les femmes, le personnage politique le plus cité, ça va être Marianne. Or Marianne, c'est pas une femme politique. Marianne, c'est une allégorie politique, et donc les allégories, c'est des symboles, c'est pas des personnes qui font des choses. Donc c'est intéressant de voir que pour la femme, c'est un symbole, et pour l'homme, c'est François Hollande. Donc le président de la République en exercice quand les manuels sont sortis.
Et même si ce n'est pas encore officiellement au programme, les féministes regrettent qu'il n'y ait pas un mot dans ces manuels d'enseignement moral et civique sur les violences faites aux femmes.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1, les sports, l'Open d'Australie en tennis. Le premier tour, ça passe pour Federer, mais aussi pour Monfils, qui retrouvera donc Djokovic au deuxième tour jeudi. Chez les dames, 15e défaite consécutive pour la Française Kristina Mladenovic.
Vous écoutez Europe 1, il est 12h50 et Europe Midi continue dans un instant avec vous, Maxime Switek.
Avec l'Europe à la une et Dany Cohn-Bendit, à tout de suite.
Europe Midi.
Il est 12h53, Maxime Switek.
L'Europe à la une, bonjour Dany Cohn-Bendit.
Bonjour Maxime, pardon.
Dany, aujourd'hui la Catalogne, avec cette décision de justice qui est tombée hier, le principal parti indépendantiste a été condamné pour corruption.
Oui, exactement. Il a été condamné pour avoir été financé par un groupe de PTP à la hauteur de 6,8 millions d'euros. Et en fait, et pour cela, le groupe de PTP a eu certains montants de travaux publics qui ont automatiquement atterri à ce groupe. Et cette corruption, elle a déjà, une ancienneté, puisque l'ancien président de ce parti indépendantiste, avait démissionné. Il a été poussé, d'ailleurs, à la démission, parce qu'on savait qu'il y avait ces histoires de corruption. Monsieur Puigdemont avait repris ce parti, d'ailleurs, qui avait changé de nom, pour justement parce qu'il s'appelle maintenant le PD4, c'est-à-dire le Parti démocratique européen de Catalogne. Eh bien, ça a continué et ça passait par quelque chose d'assez extraordinaire, une institution culturelle de renommée, je dirais même mondiale, le Palais de la Musique. 2,5% de ce que donnait le groupe PDP allait au parti et le reste allait aux deux responsables du Palais de la Musique à Barcelone.
Dany, pour vous, cette affaire, elle abîme d'une certaine manière le mouvement, l'élan indépendantiste?
Écoutez, vous savez, ça, en Italie, ça a un nom, ce genre d'affaire. Ça s'appelle Berlusconi. c'est le système Berlusconi. Et déjà, il y avait quand même assez, disons, de soupçons de la manière dont géraient les indépendantistes la Catalogne. Par exemple, si on voulait apprendre l'espagnol, on n'avait pratiquement plus le droit. On était obligé à l'école, c'était d'abord le catalan, puis le catalan et après encore le catalan. Eh bien, on voit très bien qu'en fait, voilà, le problème, il est entre un souverainisme régional et un souverainisme national espagnol, eh bien, il n'y a pas de différence, sauf que l'un est catalan et l'autre espagnol. Et voilà, donc, la nouvelle démocratie en Catalogne, c'est pas pour demain.
Dani, on vous sent triste ?
Ben oui, parce que vous savez, quand un mouvement essaie justement, et il attaquait la corruption qui existait, qui existe en Espagne, Rajoy est soupçonné de beaucoup d'organisations de corruption, on espérait qu'au moins, même si moi j'étais pas d'accord avec le mouvement indépendantiste, mais qu'ils avaient une idée d'une démocratie rénovée. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Le modèle de gouvernance des Catalans ressemble comme une jumelle, les Catalans ont des jumeaux, au modèle de gouvernance de Madrid. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir sortir de l'Espagne pour faire la même chose à Barcelone.
À l'Europe, l'Espagne et la Catalogne à la une. Merci, Dani Cohn-Bendit. On se dit à demain.
À demain, Maxime. Ciao, ciao.
La météo, Christine Peña, vous avez une seconde pour que je donne le programme ?
Allez-y.
Allons-y. Dans quelques instants, ce sera évidemment le journal de 13h. Le débat, faut-il lever l'anonymat pour les dons de sperme ? Et puis à 13h15, vous le savez, ce sera circuit court. Émission consacrée aujourd'hui à l'éco-conception. Comment est-ce qu'on réfléchit dès la conception d'un objet à l'empreinte qu'il va laisser sur Terre ? Mais donc, la météo.
La météo, donc.
De notre Terre et de la France. Demain, ça continue à souffler.
Mais oui, effectivement, du nord au sud. Hein, ça souffle vraiment partout. Alors, je vous déconseille, parce qu'il va pleuvoir aussi, le parapluie. Mettez plutôt, vous savez, la capuche en plastique.
J'ai ça.
Voilà. Donc, de bonnes rafales de 100 à 110 km/h en Manche, de 100 à 120 km/h en Méditerranée. Et la Corse, demain, sera toujours en vigilance orange pour vent violent. Et puis, des rafales jusqu'à 130 km/h sur les Alpes, cette fois. Ça, c'est pour les rafales les plus fortes. Hein. Et attention sur les Alpes au risque d'avalanche qui va se renforcer demain. L'après-midi, les nuages, ils seront moins nombreux que le matin. Mmh. Petite consolation, mais l'instabilité, elle sera toujours présente en fait. Nous aurons quelques petites averses ici et là. Il y aura toujours des averses un peu plus nombreuses, surtout le matin dans le sud-ouest. Et l'après-midi, eh bien, ça se calmera un tout petit peu.
On ne va pas vers une accalmie.
Bah non, non, du tout, puisque jeudi, une nouvelle perturbation va vraiment traverser tout le pays, surtout la moitié nord, un petit peu le sud aussi. Elle devrait encore apporter pas mal de vent, notamment sur les côtes de la Manche, des vents violents. Et de la pluie, de bonne pluie soutenue, risque d'inondation forcément, puisqu'elle va arriver sur des sols qui sont pour la plupart déjà saturés.
Vous n'auriez pas les températures pour nous ?
Si, puis alors ça c'est la seule consolation finalement, elle reste un petit peu au-dessus des normales de saison. D'ailleurs à Paris, on gagne 1 degré demain, il fera jusqu'à 11 degrés, oui, demain après-midi, 5 à Aurillac, bon à Colmar 7 degrés, à Montauban 11 degrés également, 14 à Perpignan et Montpellier, là où il fera le plus chaud finalement demain après-midi, c'est encore en Méditerranée, hein, pas trop de surprises, avec un 16 degrés annoncé à Nice.
Merci Christine Peña. Dans une minute, le journal sur Europe 1.
Très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h. L'essentiel de l'actualité, Maxime Switek.
Et à la une, visite présidentielle à Calais, Emmanuel Macron est sur place un peu plus d'un an après le démantèlement de la jungle, alors que 500 migrants vivent toujours dans les environs. Le chef de l'État a visité ce matin un centre d'accueil pour réfugiés. Il vient d'arriver à la caserne de la gendarmerie de Calais, où il s'adresse en ce moment même aux forces de l'ordre. Une nouvelle agression dans une prison. 7 surveillants blessés à Mont-de-Marsan dans les Landes, nez et doigts cassés. Ils ont été agressés par un détenu connu pour sa violence et qui refusait la fouille de ses affaires. Pendant ce temps-là, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, où une autre agression avait eu lieu la semaine dernière. Prison bloquée depuis hier par les surveillants. La France compte 67,2 millions d'habitants. C'est le tout dernier chiffre donné ce matin par l'INSEE, qui note un ralentissement assez net en termes de fécondité. En fait, la population française continue d'augmenter, mais beaucoup moins vite qu'avant. Écoutez les explications de Marie Reynaud. Elle est chef de l'unité des études démographiques.
La différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès en 2017 est le plus faible depuis l'après-guerre. Et cela s'explique par le fait que les naissances diminuent et que les décès augmentent. Donc, la baisse des naissances s'explique d'une part par le fait que le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants diminue et surtout parce que l'indice de fécondité diminue pour la troisième année consécutive. On a deux explications potentielles. D'un côté, ça pourrait être l'instauration d'une nouvelle tendance qui donc se poursuivrait dans le futur. Ou d'un autre côté, l'impact de la crise. On attend des jours meilleurs pour avoir un enfant. Si cette explication est la bonne, ça voudrait dire qu'on devrait observer une réaugmentation de la fécondité une fois la crise passée.
Marie Reynaud de l'INSEE avec Théo Manval pour Europe 1. L'économie après Renault hier, c'est Peugeot qui a dévoilé ses chiffres de vente ce matin. PSA a écoulé l'an dernier 3,6 millions de voitures dans le monde, chiffre en hausse de plus de 15%. Mathieu Gallet va-t-il devoir démissionner? C'est en tout cas ce que laisse entendre fermement la ministre de la Culture Françoise Nyssen dans le journal Le Monde. La situation actuelle n'est pas acceptable, dit-elle, alors que Mathieu Gallet a été condamné hier à un an de prison avec sursis dans une affaire de favoritisme. Et puis le foot, la Ligue 1, début ce soir de la 21e journée. Trois matchs, Marseille, Strasbourg et Bordeaux-Caen à 19h et Monaco-Nice à 21h. Dans un instant, le débat d'Europe Midi sur le don de sperme. À tout de suite.
Europe Midi, Maxime Switek. Et c'est l'heure du débat d'Europe Midi sur Europe 1 avec vos invités, Maxime, et toutes vos réactions, vos questions sur Twitter avec le hashtag #1midi et sur europe1.fr.
Faut-il lever l'anonymat des dons de sperme? Cette question, nous la posons à la suite du témoignage que vous avez peut-être entendu ce matin sur Europe 1. Témoignage d'Arthur Kermal-Vezen, un jeune Français de 34 ans, né d'un don de sperme et qui a réussi à retrouver son géniteur après avoir réalisé un test ADN sur Internet et après avoir effectué des recherches généalogiques. Des démarches interdites aujourd'hui en France. La loi impose l'anonymat des donneurs. Alors, faut-il changer cette loi? Pour en parler avec nous en studio, Audrey Kermal-Vezen, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes avocate, née d'un don de sperme. Vous êtes l'épouse d'Arthur Kermal-Vezen, dont je parlais à l'instant. Et vous réclamez donc la levée partielle de l'anonymat des donneurs. On va en parler avec vous. Merci d'être là. Jean-Marie Kunzmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin hospitalier, ancien responsable du CECOS de Cochin. Alors, le CECOS, c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Une question, quelques questions d'ailleurs, Jean-Marie Kunzmann, pour poser le débat. Combien de dons de sperme chaque année en France? Est-ce qu'on a le chiffre?
En gros, il y a à peu près 2000 demandes de couples qui souhaitent concevoir par don de spermatozoïdes, notamment, plus un certain nombre de demandes par don d'ovules.
D'accord.
Et je dirais que sur, pour donner la mesure des naissances, il y a à peu près 1000 naissances par don de spermatozoïdes chaque année dans l'ensemble des CECOS.
Chaque année. Dont totalement anonyme et gratuit, c'est la règle en France?
Oui, c'est la règle. Depuis le début de cette pratique, le don a été anonyme et gratuit. Et les premières lois de bioéthique qui datent de 1994 ont validé ce principe-là. Et ensuite, ça a été repris dans les lois de bioéthique suivantes.
Audrey Kermal-Vezen, vous levez la main.
Oui, si je peux me permettre. En fait, l'anonymat du don et la gratuité du don a été inscrit dans la loi comme 1994. Parce qu'en fait, les premières lois de bioéthique de 1994, c'est la première réglementation sur le don de gamètes.
D'accord.
Avant, on a simplement des banques de sperme privées, hébergées dans les hôpitaux publics et qui appliquent chacune leurs propres règles. Moi, dans la banque de sperme où j'ai été conçue, par exemple, les donneurs étaient rémunérés 100 francs à chaque don.
D'accord.
Il n'y avait pas de limite au nombre d'enfants qu'on pouvait faire avec le même donneur. Et donc, je pourrais avoir beaucoup de demi-frères et sœurs dans la nature. En tout cas, pour l'instant, j'en ai retrouvé deux très facilement. Donc, ça me fait craindre le pire au risque de consanguinité que j'encours et que mes enfants encourent.
Justement, qu'est-ce que vous réclamez, vous, concrètement, aujourd'hui?
Alors nous, on réclame l'accès aux origines. Alors, déjà, on réclame un débat de société sur ce sujet et on réclame l'accès aux origines, c'est-à-dire que la personne issue d'un don puisse, à sa majorité, connaître l'identité du donneur si le donneur est d'accord. Donc pour ceux qui ont déjà donné, que les donneurs soient recontactés et qu'on leur pose la question
ouais,
tout simplement. Et puis pour l'avenir, ceux qui ne souhaitent pas être contactés, ils ne donnent pas. Et c'est ce qui s'est passé en Suède et au Royaume-Uni. La Suède a changé sa loi en 1984, le Royaume-Uni a changé sa loi en 2003 et ils n'ont pas moins de donneurs, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ou en tout cas ce qu'on peut entendre de la part de nos détracteurs.
Pourquoi, évidemment, ce sont des questions éminemment intimes, pourquoi est-ce que vous avez ce besoin-là aujourd'hui? ce besoin, cette volonté de faire changer la loi et de lever cet anonymat?
C'est tout simplement que ça concerne notre identité. C'est pas du tout, on n'est pas en recherche d'un père ou, ou d'une filiation, d'une autre filiation. D'ailleurs, je précise que les donneurs sont protégés contre toute demande d'héritage, de filiation, responsabilité, etc. On veut simplement connaître tous les éléments de notre histoire, parce que c'est aussi voir le visage, c'est ce qui permettra d'humaniser ce mode de procréation. Et c'est après tout une très belle histoire. Arthur, ça se passe formidablement bien avec son géniteur. Contrairement à ce qu'on entendait, on nous disait que les donneurs voulaient surtout pas nous voir. Eh bien non, le donneur d'Arthur est ravi de l'avoir rencontré. Les donneurs qui militent au sein de notre association aimeraient beaucoup pouvoir entrer en contact avec les personnes issues de leur don. Donc c'est une belle histoire. Pourquoi vouloir la cacher ad vitam aeternam?
Jean-Marie Kuntzmann, comment réagissez-vous?
Je vais bien réagir parce que pour moi, la question, c'est l'interprétation de la question des origines. Et finalement, moi, en termes de... Je suis médecin, je ne suis pas là pour une conception de la société de façon particulière, mais on doit agir avec un certain nombre d'acteurs qui sont effectivement des donneurs, des couples demandeurs, et puis effectivement, le troisième acteur, c'est
évidemment,
l'enfant.
Évidemment.
Qui va être issu, qui va être... Oui, non, mais le problème, c'est qu'il apparaît 20 ans plus tard, en termes de réinterprétation, de questionnement, tout ça. Donc, et ça, on ne l'a pas anticipé au départ. Mais ce qui s'est passé au départ, et qui est toujours en gros l'état d'esprit de la majorité, c'est effectivement, il y a des hommes et des femmes stériles qui n'ont pas les quelques cellules essentielles à la conception d'un enfant. Et d'autre part, il y a des donneurs, des donneuses. Ils disent, nous, on a la chance d'avoir ces cellules, on a réalisé notre projet d'enfant. Et peut-être que ces cellules que nous, on a la chance d'avoir, qui sont assez extraordinaires, on peut les faire circuler sur le mode de la solidarité, comme parfois on donne aussi notre sang, nos cellules de la moelle, ainsi de suite. Mais ce don-là, ils ne peuvent le faire que si, effectivement, ils approchent une autre interprétation de la question des origines.
C'est-à-dire
qui n'est plus basée sur la question des liens du sang. C'est-à-dire qu'à la limite, ce n'est plus l'ADN, là, le marqueur. Ils estiment, ils disent, mais écoutez, nous, on ne voit pas pourquoi on réapparaîtrait 25 ans plus tard ou 20 ans dans la vie d'un enfant. Parce que ce qu'on donne, c'est une cellule qui, certes, va permettre de concevoir un enfant. Mais on n'est pas dans le projet d'enfant. On a nous-mêmes nos propres enfants. Et cette histoire-là, c'est celle du couple qui a décidé de faire le projet d'enfant, ainsi de suite.
Bon, quand vous dites « ils estiment », c'est parce que c'est ce qu'ils vous disent, ces donneurs avec qui vous êtes évidemment en contact, dans la majorité des cas ?
Dans la majorité des cas. Il y a eu une enquête encore récente qui a été faite, je ne sais plus, en octobre, je crois, par le journal La Croix qui a été commandé à l'IFOP. Il y a encore 85% de la population française qui est en faveur de l'anonymat. Donc, nous, on ne peut pas... Ce que je veux dire, c'est que moi, au-delà de... on est bien obligé de faire avec les acteurs... Je dirais qu'ils sont en présence.
Moi, je suis favorable à l'anonymat.
Audrey Carmel,
moi, je suis favorable à l'anonymat. Je fais partie des 85%. On est favorable à l'anonymat au moment de la PMA. Le couple ne connaît pas le donneur et inversement, seulement l'enfant a sa majorité. Vous dites que l'enfant, on a 20 ans de recul, mais enfin, en attendant, aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que la pratique existe. Vous nous avez entendu, on a déjà été auditionnés ensemble à l'Assemblée nationale, au Sénat. Aujourd'hui, les enfants sont des adultes et qui peuvent témoigner. Des bénéfices de la PMA, on est content d'être en vie, mais ça pourrait être humanisé, ce mode de procréation. Et pour ça, il faudrait simplement prendre en compte la parole de celui qui est le plus concerné dans sa chair, c'est l'enfant, puisqu'il l'a transmis à ses
enfants. Je voudrais simplement, dans ce débat, qu'on entende le témoignage d'Anna. Elle a 27 ans, si je ne m'abuse. Elle a découvert, je crois, à 27 ans, qu'elle était née à l'issue d'un don de sperme. Elle appartient à l'association des enfants du don. Et elle réclame le maintien, elle veut le maintien de l'anonymat. Je vous propose qu'on l'écoute.
Je suis issue d'un don de sperme et j'ai appris donc en fait cette nouvelle il y a environ 6 ans. Mes parents, ils nous ont réunis, c'était à Noël, hein, voilà, tout en insistant que ce don leur avait permis de réaliser leur rêve. La personne qui a fait donc ce don, je le considère comme quelqu'un qui a aidé mes parents. En aucun cas, je le considère comme mon père. En fait, pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait fait un don de sang. Hein. Mon père reste mon père, c'est lui qui me suit. Et du coup, voilà, je reste sur mon père, sur ma famille, comme elle est actuellement.
Voilà, témoignage recueilli par Clara Garnier-Amouroux. On le voit, ce sont des questions difficiles, avec des points de vue difficiles, des points de vue très différents. On pourrait imaginer, c'est ce que vous avez en esprit, qu'on laisse la possibilité au donneur de dire oui ou non, j'accepte qu'on puisse me retrouver. Il pourrait dire non, le donneur ?
Bien sûr, déjà nous, alors par rapport au témoignage d'Anna, nous on revendique un droit. Pas une obligation. Hein. Ceux qui ne veulent rien connaître de leur géniteur ne feront pas la démarche de vouloir le rencontrer. Les donneurs, moi, ce que j'ai fait, j'ai saisi quand même la justice en 2010 pour demander une simple chose, c'est avant de répondre à la place du donneur, contactez-le de façon confidentielle et posez-lui la question à lui. Qu'est-ce qu'il souhaite ? Or, les Sécos ont demandé à ce que ma requête soit rejetée et j'ai même été condamnée récemment à verser 3 000 € au titre des frais d'avocat de la PHP parce que j'ai simplement demandé qu'on pose la question à mon géniteur, qu'est-ce qu'il souhaite ? Est-ce qu'il veut rester anonyme ou pas ?
Jean-Marie Kunzmann, si on n'oblige pas les donneurs à révéler leur identité, si on leur donne juste la possibilité de le faire quand l'enfant arrive à l'âge de 18 ans par exemple, juste un droit, la possibilité, est-ce que ça pour vous ça bouleverserait complètement
Alors, le débat, il est ancien. Déjà, lors de la révision des lois de bioéthique de 2010-2011, Roselyne Bachelot avait évoqué la possibilité que l'on puisse accepter, d'une part, des donneurs acceptant la levée de l'anonymat, et d'autre part, des donneurs éventuellement la refusant. Bon. Sauf que nous, on a un problème de gestion dans l'attribution des dons. Quand un couple vient nous voir, est-ce qu'on attribue un donneur qui accepte ou pas ? Je veux dire, on entre
dans ce que prévoyait le projet de loi Bachelot. Mais je suis désolé, monsieur Kunzmann.
Mais non, mais attendez, laissez-moi parler.
Sur cette question-là.
Je veux dire, il faut qu'aussi nous, on soit cohérents, en cohérence quelque part, sur toute la longueur du processus, avec la faisabilité. Si moi, j'attribue un donneur, à un moment donné, pour des raisons de phénotype et autres, qui n'accepte pas la véonima, 20 ans plus tard, cet enfant va dire « Mais pourquoi m'a-t-on donné un donneur qui, finalement, n'accepte pas ?» Si c'est les couples qui choisissent, on peut aussi accepter que c'est les couples qui font la demande. La critique sera éventuellement la même envers les parents. Donc vous voyez que, voilà, il faut qu'on soit sur des concepts qui puissent être validés globalement. Après, on peut laisser peut-être à chacun, mais il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu.
Et on voit bien à quel point ces questions sont compliquées. Je suis désolé, on arrive déjà à la fin, au terme de ce débat. Merci à tous les deux d'avoir accepté, en tout cas, de dialoguer aujourd'hui sur Europe 1 en direct. Merci à tous les deux. Audrey Kermal-Vézène, avocate, je le rappelle, et épouse donc également d'Arthur Kermal-Vézène qu'on entendait ce matin sur Europe 1. Merci à vous, Jean-Marie Kunzmann. Merci également, médecin hospitalier, ancien responsable du Sécos de Cochin. Merci à tous les deux d'être venus en direct dans Europe Midi.
Oui, dans un instant sur Europe 1, c'est circuit court jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, on va parler de l'éco-conception,
Absolument.
Maxime.
Absolument. Comment évaluer dès la conception d'un objet, d'une maison par exemple, à quel point elle va laisser une empreinte sur Terre en termes de pollution par exemple. À tout de suite.